C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. La quatrième évaluation du programme économique du gouvernement congolais avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale est sur la bonne voie selon le ministre des Finances Matata Ponyo. Affirmation que ne partage pas le sénateur Lokondo qui fustige le flou entretenu par le gouvernement dans ce dossier, notamment dans la signature de certains contrats miniers. La conclusion positive de ce programme permettra en effet à la RDC de bénéficier des appuis budgétaires de la part de ces deux institutions internationales. Comment analyser cette divergence de vues? Nos invités dans cette émission sont Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Tatine Sungani, cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, parti de l'opposition. Monsieur Sungani, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Lems Kamoigna, coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promines, une structure qui dépend du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, chers auditeurs et internautes. Fabien Kasunga de Kinshasa. Pourquoi notre gouvernement est souvent content des satisfaits du FMI alors que sur terrain, il n'y a pas grand-chose qui change socialement? Jules de Kikwito Bandundu, le sénateur Lokondo a raison car la mauvaise gestion caractérisée du secteur minier favorise la fraude massive et à grande échelle qui occasionne un manque à gagner énorme à l'État. D'où la nécessité de créer un système intègre de gestion informatique en identifiant et en incluant l'ensemble des services publics de l'administration minière, des régies financières et tous les opérateurs exerçant dans ces secteurs. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Pour bien comprendre la quatrième revue du programme économique du gouvernement, notez que le FMI et la Banque mondiale avaient lancé en 1996 l'initiative Pays pauvres très endettés afin d'aider les pays confrontés à une charge d'endettement difficile à gérer à s'en sortir. La RDC se trouvant dans une situation de dette insupportable avait souscrit à ce processus pour bénéficier de la réduction de sa dette. Le processus exige que le pays qui veut bénéficier des avantages de cette initiative présente un plan stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté. Explication Daniel Tambinzoni.
Pour la République démocratique du Congo, ce plan devait également présenter de manière claire la situation économique, les réformes structurelles à mener en vue d'améliorer le cadre macroéconomique, améliorer la gestion des finances publiques, accroître l'indépendance de la Banque centrale du Congo, accroître la production et j'en passe. Le gouvernement congolais l'avait fait et en 2002 avait conclu son premier programme économique avec le Fonds monétaire international. Mais faute de résultats, il a été résilié en 2006. Le programme économique PEG 2, qui a conduit jusqu'au point d'achèvement en juillet 2010, a été signé en décembre 2009 pour une durée de 3 ans. À la conclusion de l'accord, la RDC avait donné des garanties à observer la ligne de conduite que le FMI et la Banque mondiale lui indiquent d'un côté et de l'autre, le Fonds monétaire et la Banque avaient promis des appuis budgétaires en cas de bonne mise en exécution du programme après évaluation dite revue du PEG 2. C'est ainsi que la RDC avait bénéficié de plus de 73 millions de dollars américains en juin 2010 après la conclusion positive de la première revue, plus de 551 millions de dollars à la deuxième revue au mois de décembre 2010, plus de 80 millions en avril 2011. C'est la quatrième revue relative à la fin du mois de juin qui pose actuellement problème.
Merci Daniel Tambinzoni. Il y a cet auditeur professeur Ignace Ndala de Kolwezi Katanga qui dit « Le peuple congolais a été suffisamment édifié en terminologie économiste. Après le point d'achèvement, voici la quatrième revue du programme économique du gouvernement, bloqué ou sur la bonne voie avec le FMI. Je vais juste vous demander à titre pédagogique pour aider nos auditeurs et nos internautes à mieux comprendre le sujet. Lems Kamoigna, juste un commentaire en termes simples hein, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent mieux appréhender le sujet. Un commentaire sur le programme économique du gouvernement.
Oui, merci pour la question. Je crois en termes plus simples, lorsqu'on parle d'une revue, il s'agit d'une évaluation. C'est-à-dire les gouvernements et les bailleurs de fonds internationaux, principalement la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux, ils se mettent d'accord sur un certain nombre de performances, sur un certain nombre d'actions qui doivent être posées dans notre cadre macroéconomique, par exemple stabiliser la monnaie, stabiliser les niveaux des prix, bien gérer les finances publiques, relancer les niveaux de la croissance. Donc il y a autant d'indicateurs sur lesquels les gouvernements se mettent d'accord avec la Banque mondiale et ils décident un certain nombre d'actions à réaliser pour atteindre les objectifs qui sont ainsi convenus. Alors chaque fois qu'on fait une revue, c'est-à-dire on essaie d'examiner les différentes mesures qui ont été prises, est-ce que ces mesures-là ont été exécutées avec satisfaction par les gouvernements congolais ou ces mesures-là n'ont pas été exécutées. C'est cet examen, cette évaluation qu'on appelle une revue. Donc on regarde les actions convenues de commun accord, quels sont les niveaux d'exécution du gouvernement congolais. Donc une façon pour le gouvernement de tenir sa parole, de tenir ses engagements.
Voilà. Merci. Al-Kitenge, un mot à ajouter ?
Pas grand-chose. En fait, il faut déjà noter que cet engagement que l'on appelle programme économique du gouvernement, c'est un engagement entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, en ce qui nous concerne pour l'instant. Ce n'est malheureusement pas un programme qui tient compte des véritables défis de la nation, encore moins ceux de la population. Et donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a une grosse frustration des hommes politiques qui ont un rapport à donner à la fois au peuple congolais, un rapport à donner à un autre partenaire qui se trouve être le groupe de partenaires financiers. Et très malheureusement, les deux vont de manière dichotomique en parallèle. Et je pense simplement que là-dessus, il faudrait faire comprendre au cours de cette émission à notre population d'où nous venons, où nous allons et qu'est-ce qu'il y a derrière chacun des termes.
Tatine Soungani, commentaire, un commentaire également.
Oui, bref commentaire. Je crois que le reportage a été clair. Le programme économique du gouvernement, c'est trois choses. Premièrement, le gouvernement congolais et les institutions internationales, notamment de Bretton Woods, donc Fonds monétaire et Banque mondiale, conviennent ensemble d'un programme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les institutions de Bretton Woods vont vérifier, si vous voulez, contrôler et le cas échéant, évaluer la bonne exécution de ce programme. Cela se fait chaque 6 mois et cette évaluation fait l'objet d'une publication qu'on appelle revue. C'est pour ça que vous avez vu, première revue, deuxième revue, troisième revue. Donc chaque 6 mois, on évalue le comportement de ce programme. Troisièmement, si le programme est bien suivi, il y a un satisfecit qu'on appelle bonus. Si le programme est mal exécuté, il y a des actions correctives ou le cas échéant, la résiliation de ce contrat, comme ça a été le cas en 2006.
Merci. La 4e revue du programme économique du gouvernement n'est pas bloquée, à en croire le ministre des Finances. Dans un communiqué publié la semaine passée, Matata Ponyo tenait à couper court à la rumeur selon laquelle cette 4e revue du programme élargi du gouvernement 2 était bloquée. Pour le ministre des Finances, cette revue est plutôt très concluante et le dossier poursuit son cours normal au Fonds monétaire international. Écoutez le ministre Matata Ponyo au micro d'Innocent Olinga.
D'abord, je voudrais confirmer que la 4e revue des programmes est très très concluante et que les dossiers devraient en principe suivre son cours normal pour être présentés au conseil d'administration du Fonds monétaire bien avant la fin de l'année. La question des gouvernances, nous la discutons de manière tout à fait régulière avec le Fonds monétaire, tout comme avec la Banque mondiale, et il s'est fait qu'il y a des sessions d'action qui sont faites dans 2 entreprises minières congolaises, mais pour lesquelles le fonds et la banque n'étaient pas informés. Ils ont, comme l'exigent les pratiques professionnelles en la matière, conformément aux prescrits du programme, ils ont demandé au gouvernement de communiquer les informations essentielles en rapport avec ces sessions. Et c'est ce que nous avons promis, et ils ont dit qu'ils attendaient donc les informations en rapport avec ces sessions. Les dirigeants de ces entités minières sont disposés à communiquer l'ensemble de l'information sollicitée, et nous pensons qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de blocage. Pour les partenaires au développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres bilatéraux, ils reconnaissent qu'il y a des progrès. Mais ils disent, le chemin de la gouvernance, ce n'est pas une photographie statique, c'est une photographie dynamique. Autant il y a des progrès qui sont réalisés, autant il y a des améliorations qui sont encore attendues.
En réaction, le sénateur Henri Thomas Lokondo Yoka de la majorité au pouvoir fustige l'attitude moins claire du gouvernement par rapport à ce dossier. Pour Thomas Lokondo, la 4e revue du programme économique du gouvernement est bloquée, contrairement aux affirmations du ministre des Finances. Au micro, une fois de plus, d'Innocent Olinga, le sénateur Henri Thomas Lokondo donne le motif de ce blocage.
ce qui a fait que la quatrième revue ne puisse pas être conclue. Le motif fondamental est la non-transparence dans le secteur minier, particulièrement sur les contrats signés récemment par la société minière Sudimico et la Gécamines. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale reprochent au gouvernement congolais le fait que les concessions minières que nous vendons aux étrangers le sont à bas prix et que ceux qui achètent ces concessions minières-là, les revendent au prix fort sur les marchés financiers internationaux. Le cas de Sudimico est patent. Cette société a vendu les anciennes concessions minières que le gouvernement avait dépossédées à la société First Quantum à 30 millions de dollars. Je dis 30 millions de dollars. Mais la valeur estimée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale est, tenez-vous bien, de 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Le cas de la Gécamines est troublant aussi. La Gécamines a vendu un actif à 137 millions de dollars en déclarant que cette vente a été faite suite à la valorisation par la banque française BNP. Et tout cela dans une opacité qui n'a pas convaincu le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est ainsi que ces institutions nous ont recalé. En ajoutant que dans ce contexte des choses, la RDC elle-même a alors beaucoup d'argent et qu'elle n'a pas à leur demander des subventions dans le cadre des programmes. Donc il est un fait qu'en ce moment, le budget que nous allons voter pour l'année 2012, bénéficiera difficilement de recettes extérieures exceptionnelles, comme d'habitude. Donc voilà là où nous amène la mauvaise gouvernance et la corruption.
Lems Kamoindia, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines, Promines, structure qui dépend du gouvernement central. Vous avez suivi le sénateur Henri Thomas Lokondo. Décidément, cette évaluation du programme économique du gouvernement a été biaisée, notamment à cause de l'opacité du gouvernement dans le secteur minier.
Oui, oui, il y a deux choses que j'aimerais apporter à votre connaissance par rapport à l'intervention du sénateur Henri Thomas Lokondo. La première chose, c'est la valeur des concessions. La Sudimico n'a pas vendu l'ensemble des concessions. La Sudimico était déjà partenaire avec une autre société canadienne Fortune et la Sudimico avait 30% d'actions dans cette société. Et la Sudimico a revendu ses actions à 30 millions et la personne auprès de qui a acheté ces actions les a revendues à 150 millions. Ce n'est pas 1,5 milliard, ce n'est pas 2 milliards. Sinon, ça serait vraiment de la folie, de 30 millions à 1,5 milliard ou 2,5 milliards. C'est vérifiable, ça a été revendu 3 mois après à 150 millions pendant que la Sudimico a vendu ses actions à 30 millions. Pour, en ce qui concerne la Gécamines, là aussi, les montants de vente des actions de la Gécamines dans la société Moumi, c'était 137 millions. Alors, il y a le centre Carter qui procède à l'évaluation de cette société, a estimé que ce que la Gécamines a vendu à 137 millions, c'est dans une société où la part de ses actions peut atteindre facilement 800 millions. Donc ça, ce sont des chiffres exacts selon les évaluations indépendantes faites par des experts internationaux. Donc 1,5 milliard, 2 milliards, ça c'est la valeur de la société Moumi. Et dans cette société, la Gécamines a des actions. La Gécamines n'est pas titulaire de l'ensemble des actions. Je crois qu'il faut quand même des précisions qu'il faut apporter pour que les gens ne créent pas de confusion. Deuxième élément, le plus important, ce n'est pas le gouvernement. Ici, il y a un problème de fond qui doit être réglé. Parce que vous savez que les entreprises publiques ont été transformées en sociétés commerciales. Alors là-dessus, les présidents des conseils de société commencent à se considérer comme étant des sociétés privées. Elles prennent des décisions sans que le gouvernement central ne soit informé. Ces deux contrats, que ce soit dans le cadre de Sudimico, ces deux contrats ont été publiés par le ministère des Mines. Aujourd'hui, si vous allez sur ce site, vous verrez les ventes qui ont été opérées à l'issue des transactions. Et les présidents des conseils d'administration, ils se disent qu'ils prennent les décisions et ces décisions n'engagent pas le gouvernement congolais. Et c'est ce qui fâche les bailleurs de fonds. Ils disent, d'accord, ces sociétés sont commerciales, mais elles demeurent encore propriétés de l'État. Avant de céder de tels actifs, il faudrait que le gouvernement donne son quitus. Et voilà, les discussions sont à ce niveau-là par rapport aux principes qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut mettre en place pour arriver à bien gérer les actifs miniers, les modalités de la récession et même la gestion des revenus ici de ces transactions. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être clarifiées entre les gouvernements et ces sociétés pour que les gouvernements ne soient pas sanctionnés par des actes posés par ces mandataires dans les entreprises du portefeuille.
Le sénateur Henri Thomas Lokondo, dans l'interview qu'il a accordée à Radio Okapi et qui est passée ce matin sur nos antennes, a notamment affirmé que les recettes du secteur minier ne passent pas par la Banque centrale du Congo, mais je les cite, par des comptes offshore que le gouvernement ne contrôle pas. Est-ce que cette indépendance, entre guillemets, de certaines entreprises ne renforce pas cette opacité vis-à-vis des bailleurs?
Non, là aussi, ce n'est pas exact, parce que je suis pas sur les studios, je peux vous amener une circulaire signée par la ministre du portefeuille qui demande à chaque entreprise minière, lorsqu'elle fait une transaction sur la cession d'actifs, l'ensemble du produit de transaction doit être versé au trésor public, à moins que la société présente un plan d'investissement pour l'utilisation du montant qui provient de cette transaction. Mais la réalité, ce n'est pas au niveau de ces entreprises. Ce qui fait, c'est le fait que, au moment où vous vendez vos actions dans ces sociétés à des prix qui sont bas, les entreprises qui les rachètent vont les revendre quelques temps après 5 ou 6 fois plus cher. C'est ce qui fait, c'est qui énerve les bailleurs de fonds qui pensent que on n'arrive pas à bien gérer les transactions relatives à la cession d'actifs miniers détenus par les entreprises de l'État dans certains partenariats. C'est exactement à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Et les sociétés offshore auxquelles on fait allusion, c'est plutôt les partenaires de la GECAMINE, ou bien les sociétés auprès desquelles ces actions sont vendues, c'est pour la part des sociétés qui sont cotées dans les îles Vierges, qu'on considère comme des paradis fiscaux.
Merci.
On estime que ces revenus-là, ces entreprises, elles font du bonus qui n'est pas taxé par leur pays d'origine.
Merci. Tati Nsungani, vous êtes cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti de l'opposition. Y aurait-il, d'après vous, tant de corruption et de mauvaise gouvernance dans le secteur minier, comme le dit le sénateur Henri Thomas Lokondo?
Merci pour la question. Je vais vous répondre très très clairement que le secteur minier en République démocratique du Congo, non seulement il est désorganisé, mais également c'est un secteur où la corruption a été érigée en institution. Permettez-moi de vous rappeler très rapidement que lors de la conclusion du deuxième programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international, il avait été conditionné au gouvernement congolais deux axes. Premièrement, bonne gouvernance. J'insiste. Le programme économique du gouvernement actuel, dont la quatrième revue a été hypothéquée, repose sur deux conditions. Un, bonne gouvernance. Deux, transparence des contrats des entreprises publiques. Nonobstant, et sous réserve bien sûr de ce que a déclaré le président du conseil d'administration de la GECAMINE, Monsieur Albert Youm, qui dit que la GECAMINE n'est plus soumise aux règles de transparence et des bonnes gouvernances imposées par le FMI, et qui par ailleurs va même plus loin en disant que le chef de l'État l'avait instruit, et ça c'est, permettez-moi de dire, c'est très grave, de rentabiliser les titres non productifs en sous-évaluant, me semble-t-il, les cessions des parts que la GECAMINE détient sur les entreprises tierces. Ici, il est question de la Sodimico. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous rappelle que GECAMINE a vendu ses actifs, les actifs qu'elle détenait à Mutanda Mining, à la Sodimico. Elle a vendu les actifs qu'elle détenait sur Frontière, dont je rappelle, comme l'a si bien dit mon co-débatteur de tout à l'heure, qu'elle
n'est
jamais par First Quantum Mining avant d'être cédée à Kasak RNC. Et cette société a été vendue de l'avis même des experts anglo-saxons à 16 fois moins cher. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la CMSK. Donc, il y a comme ça des entreprises qui sont du domaine de l'État, qui sont bradées, monsieur le journaliste. Et cela est tout simplement inacceptable. Je vais plus loin. Je confirme ici que la quatrième revue du programme économique du gouvernement dans sa phase 2 a été bel et bien bloquée par les institutions de Bretton Woods, contrairement aux allégations de mise et finances. Je vais même aller plus loin en disant que ces institutions de Bretton Woods ont même menacé d'utiliser leur droit de veto lors des prochaines assemblées annuelles, parce que l'assemblée annuelle qui vient de se dérouler du 23 au 25 septembre, pardon, concernait donc l'évaluation qui a été faite le 29 août par la mission qui avait été conduite en République démocratique du Congo, qui avait effectivement, comme l'a dit le ministre, je le confirme ici, qui avait dit que le cadre macroéconomique avait été stabilisé et qu'il y avait des progrès qui avaient été organisés, mais que cette revue, l'actuelle revue, était la quatrième revue donc, était suspendue pour cause de non-transparence et surtout de la non-publication des contrats de vente qui, pour, comme je l'ai dit, ces institutions de Bretton Woods, paraissaient suspects. Et donc, je vais revenir sur la vente d'actifs. Mon co-débatteur de tout à l'heure a parlé des îles Vierges. Comment un gouvernement sérieux peut autoriser, peut donner son feu vert à la vente d'actifs financiers qu'elle détient sous les entreprises tierces, fussent-elles par le biais de joint venture, à des compagnies qui sont immatriculées dans les îles Vierges, que tout le monde, même le plus petit économiste à l'université de Kinshasa, sait que ce sont des paradis fiscaux. Et donc, qui ne rapatrie pas les bonus qu'ils réalisent dans la vente, dans la cession vente des actifs qu'ils acquièrent auprès des entreprises, comme c'est le cas de la GECAMINE, monsieur le journaliste. Et donc, tout cela me pousse à dire quoi? Que, tout en rappelant qu'en mars 2011, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté la matrice de gouvernance dans le secteur des ressources naturelles avec la Banque mondiale. Personne ne l'a forcé. Mais le gouvernement a signé. Et donc, le gouvernement est tenu à faire de la transparence dans les contrats que les entreprises public signe avec des tierces, comme c'est le cas maintenant. Et pour terminer, j'aimerais dire à mon ami, mon co-débatteur de
Tadoura,
pour ce qui est de la Sodimico, c'est vrai, la Sodimico a créé avec la Sodefor, donc avec le Fortune, une société appelée Sodefor, mais j'aimerais lui dire, peut-être qu'il est peut-être expert en mine, mais les informations ne sont pas les seules à les détenir. La mine, là dont il est question, a été évaluée à 3,1 milliards de dollars. Le sénateur a parlé de 2 milliards. Moi, je lui donne les chiffres d'évaluation. 3,1 milliards Merci. De dollars, alors que la Sodefor a cédé ses actifs à 30 millions de dollars, monsieur le journaliste. Pendant que Mamayemo a besoin d'à peine 12 ou 13 millions de dollars pour être réhabilité, je pense Merci. Qu'il faut quand même que nous soyons sérieux dans la gestion des affaires publiques de l'État.
Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège, opacité dans le secteur minier, corruption, désorganisation, bonne gouvernance, réforme des entreprises, ça s'entremêle. Quelle est votre analyse?
Mon analyse est très simple. D'abord, de mon point de vue, nous sommes en train de parler d'un petit problème. Nous sommes là dans un programme économique du gouvernement, dans une de ses revues. Ce problème, de mon point de vue, est petit pour une simple raison. En réalité, lorsque on se félicite mutuellement de manière successive, c'est hypocrite. Parce que quand on parle par exemple du cadre macroéconomique congolais qui est stabilisé, ça veut dire simplement qu'on ne paye pas les fonctionnaires, qu'on ne paye pas les militaires, qu'on ne paye pas la dette intérieure. Du point de vue économique, c'est tout simplement criminel. Ça veut dire que c'est un faux problème. Ce n'est pas une résolution d'une question économique réelle. Tout à l'heure, Tati Songani disait clairement que le gouvernement a librement signé ses contraintes. En fait, c'est vrai que c'est des véritables contraintes parce que tout simplement, nous sommes dans une situation où les gens meurent de faim et très malheureusement, on doit ne pas payer les gens simplement parce que on doit artificiellement garder un certain nombre de critères économiques.
Pour être le bon élève, comme on dit.
Tout simplement. Et je dis une chose, les responsables politiques congolais sont redevables vis-à-vis de la population, parce que bientôt ils vont devoir aller aux élections et on va leur poser des questions. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'iront jamais aux élections en République démocratique du Congo. Il y a donc deux pactes. Le pacte avec les partenaires financiers internationaux, il devait être petit, et le grand pacte avec la population. Je pense que là-dessus, il y a une grosse faiblesse. Elle concerne aussi bien le personnel politique congolais, qui est hypocrite vis-à-vis du peuple congolais, mais également le peuple congolais qui n'exige absolument rien. Ce qui serait plus logique, c'est qu'il y ait un grand programme économique de développement de ce pays qui nous projette dans le temps, et si nous voulons faire venir les partenaires, ils viennent nous aider dans notre vision. En ce moment-là, nous aurions eu une cohésion intérieure. Aujourd'hui, ce qui affaiblit les politiciens congolais, c'est qu'ils sont en déphasage total avec la population. Et là-dessus, je dis, très bien, cosmétiquement parlant, la République démocratique du Congo peut toujours arriver à être en phase avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais il y a une turbulence intérieure grave. Parce que, tout compte fait, derrière les chiffres et les ratios économiques, il y a des vies humaines. À un moment donné, il faut être sérieux. Et je pense que ça, c'est des problèmes beaucoup plus importants qu'il convient de résoudre. Maintenant, le secteur minier, le secteur pétrolier, le secteur forestier sont des sources pour nous pour être en mesure de résoudre les problèmes de la population. Est-ce que nous en avons une stratégie? La réponse est non. C'est ça le gros du problème. Au point que chaque jour qui passe, nous résolvons les problèmes structurels avec des résolutions conjoncturelles. Et ce n'est pas sérieux. Un peuple doit avoir une vision. Vous savez, il y a quelques années, il y a 10 ans, on adoptait un code minier financé par la Banque mondiale, mais il faut savoir que la Banque mondiale, c'est le lobbyiste des opérateurs économiques internationaux. Mais quelle est notre vision des choses? 10 années plus tard, on se rend bien compte qu'on a été piégé. Je pense qu'il faut remettre les choses au centre et les résoudre de manière globale.
Robert Bahomé de Bukavu, au sud Kivu, il est tout à fait normal et fondé qu'une telle divergence de vues plane tant que les évaluations des programmes économiques précédentes demeureront encore floues. Pourquoi le gouvernement et ses partenaires, les institutions financières internationales, ne veulent-ils pas être explicites à cet effet? Martin Safari Mbuchu de Djougou en province orientale, quel est l'impact de la coopération du gouvernement congolais avec les institutions de Bretton Woods sur la population congolaise après l'allègement de la dette qu'avait la RDC envers ces dernières Alkitengé? Ne faudrait-il pas, peut-être un bilan c'est trop dire, mais dresser quand même un bilan du partenariat entre le gouvernement et le FMI et la Banque mondiale, finalement.
Mais il faut le faire et c'est un besoin urgent. C'est pour ça que nous devrons réorienter la stratégie du gouvernement congolais, parce qu'on gouverne les gens, on ne gouverne pas des ratios économiques, on ne gouverne pas des chiffres, on gouverne des hommes. Et il faut savoir qu'un homme a une vie et à la fin d'une vie, la personne meurt. On ne peut pas précipiter des gens à la mort simplement parce que on doit répondre à des impératifs chiffrés de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. En fait, c'est une responsabilité des hommes politiques congolais que d'intellectuels à intellectuels, que les meilleurs d'entre nous présentent les faits vis-à-vis des intellectuels de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, en leur montrant ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Il y a un besoin d'un contrat social extrêmement important et la pratique politique chez nous ne procède pas de cela et ça, c'est le grand danger. C'est pour ça que les gens qui se trouvent être les meilleurs élèves de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est en fait des criminels de la population. Qu'ils le veuillent pas, excusez-moi, le mot peut paraître fort, mais c'est de ça qu'il s'agit. Les grandes politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont en grande partie en déphasage complet avec les besoins des populations. C'est pour ça que certains pays, en Amérique latine notamment, et de plus en plus en Afrique, se sont défaits des programmes du Fonds monétaire international. Et donc, comme vous le dites, et comme le disait tout à l'heure l'auditeur, il est important d'auditer les processus et de voir si nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Mon point de vue est simple. Le programme de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le programme le dit clairement, c'est des programmes de réduction de pauvreté. Est-ce qu'un peuple entier peut se mettre en tête la stratégie de réduction de pauvreté? Non. Nous avons besoin de faire un quantum leap pour aller vers une accumulation des richesses. On partage la richesse, on ne partage pas ce qui n'existe pas. Et donc, de mon point de vue, nous devons nous doter d'un plan d'accélération d'accumulation de richesses.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kalima Omanyema pour vous.
Augustin Mwango de Kalima dans la province du Maniema, c'est lui l'objectif du sénateur Lokondo et de celle d'autres hauts cadres de la MP manifestés dernièrement dans l'analyse des discours actuels de nos dirigeants. Malheureusement, ils commencent à les faire à la veille des élections et pourtant ils ne sont pas innocents des dysfonctionnements constatés durant toute cette législature qui est en train de s'achever.
Voilà, veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Alkitengé, finalement, face à des telles questions, ne faudrait-il pas aller au-delà du clivage majorité-opposition pour aborder les vraies questions?
Mais c'est tout évident. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans vos émissions. Le peuple congolais est pourri. Notre système est pourri. Nous n'avons pas de piliers de valeur et nous admettons malheureusement les antivaleurs comme étant les éléments de mesure de notre communauté. Nous devons nous parler entre nous. Nous devons faire ce que moi j'appelle tout le temps le grand débat de société pour redéfinir le cadre de vie commune. La nation doit reposer sur des piliers et nous n'en avons pas. Et c'est pour ça que nous n'avons pas une nation au sens strict du mot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque fois que nous parlons ici, nous avons tendance à parler de Kinshasa, de Lubumbashi, des grandes villes. Il faut faire très attention de plus en plus. Là où on retrouve des ressources minières, il n'y a rien d'autre qu'une vie sauvage. Il faut se rendre compte que nous sommes redevables vis-à-vis de ces gens. Et donc, de mon point de vue, c'est très important de poser le problème bien au-delà des galons et bien au-delà des couleurs politiques.
Lems Kamonya, il y a une réaction que nous allons suivre qui, pour vous, qui vient de Butembo, Nord Kivu.
Mouindombo et Cyril de Boutembo au Nord Kivu. Pourquoi le contrat signé par nos dirigeants congolais ne sont jamais mis à la disponibilité de tous les Congolais? Nous avons du mal à faire des commentaires sur ces dix contrats parce que nous ne savons ni les contenus ni les signataires. Et ils ne sont ni publiés sur les sites internet, moins encore mis dans un bouquet pouvant être lu par les intéressés. Est-ce que ces contrats sont-ils secrets ou pas?
Réaction Lems Kamoya.
Oh, merci. Je crois qu'il faut informer l'auditeur que de ce côté-là, le gouvernement a déjà fourni beaucoup d'efforts. Tous les contrats qui ont été conclus, vous pouvez les retrouver sur le site web du ministère des Mines en tapant sur www.minerdc.cd. Donc si vous allez sur ce site, c'est le site officiel du ministère des Mines et vous verrez qu'il y a un onglet contrat. Quand vous cliquez dessus, vous allez trouver l'ensemble des contrats. Même les contrats conclus avec les Chinois, il est sur ce site. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais c'est une information qui vaut la peine.
Alors, Lems Kamoya, on parlait tout à l'heure de ce satisfait-site. Le gouvernement congolais, le FMI ont souvent été satisfaits de la manière dont se passaient les choses, mais la population qui est en train de nous suivre souvent ne le remarque pas dans son assiette.
Ça, c'est une question fondamentale. Je pense, contrairement à ce qu'a affirmé M. Ali Kitenge, vous savez, quand vous gérez un pays, quand vous dirigez un pays, à un moment donné, vous devez accepter de vous faire auditer. Vous devez quand même accepter de faire que la gestion de votre pays soit conforme aux meilleures pratiques internationales. Les FMI et la Banque mondiale n'ont pas que champ d'expérimentation la RDC. Ça concerne beaucoup de pays, nous le voyons même en Europe, les FMI qui volent à la rescousse de la Grèce, de l'Espagne, et ces institutions n'ont pas été créées pour les Africains, ça a été créé d'abord pour les problèmes européens des Occidentaux. Maintenant, on essaie de voir dans quelle mesure on peut étendre leur rôle dans les pays en développement qui sont désormais membres. Alors, là où il y a le problème, c'est que au départ, il faudrait que les gouvernements définissent sa politique économique et sociale. Et se fasse maintenant accompagner par ces institutions. Il faut que les programmes économiques de ces institutions viennent se greffer dans un programme économique et social de chaque gouvernement. À ce jour, peut-être les gens ne le connaissent pas, le Fonds monétaire international, de par sa création, et il a été créé pour faire en sorte que les systèmes financiers internationaux soient stables, que les rapports qu'il y ait différentes monnaies soient stables. C'est ainsi que vous verrez que les FMI s'intéressent plus à la Banque centrale, à la convertibilité des monnaies, parce que s'il y a instabilité entre les systèmes financiers, c'est ce qui aboutit à beaucoup de problèmes au niveau mondial. Rappelons-nous les effets qu'on a eu avec la dernière crise financière internationale. Ça, c'est des problèmes qui sont au cœur de l'action du FMI. La Banque mondiale, je le dis bien, elle est là pour réduire la pauvreté. Et c'est elle qui pourvoit grandement dans les cadres de dans les pays comme dans notre post-conflit. Si on vous relate combien de projets ont été financés par la Banque mondiale. Les différents projets dans notre pays mis en œuvre par la Banque mondiale, l'enveloppe atteint 3 milliards de dollars. Il y a certaines routes, il y a certains hôpitaux, il y a beaucoup d'œuvres sociales et d'infrastructures économiques et sociales qui ont été réalisées sur financement de la Banque mondiale par le fait que nous sommes membres.
M. Kamoya.
Voilà.
Voilà, vous dites que le FMI vient au secours des pays tels que la Grèce, le Portugal, l'Espagne en Europe, mais on sait qu'il y a beaucoup de marches de protestation contre l'austérité dans ces pays. Donc, à vous comprendre, le bilan du partenariat FMI, Banque mondiale et gouvernement congolais est positif, mais dans l'assiette, le Congolais ne le ressent pas au jour le jour.
Non, le problème de l'assiette du Congolais, ce n'est pas le problème du FMI et de la Banque mondiale. C'est là que j'aimerais me faire comprendre. Les FMI et la Banque mondiale sont des partenaires de chaque gouvernement. Il faut que les gouvernements définissent sa politique économique et financière et se fassent assister par les FMI et la Banque mondiale dans le cadre de la gouvernance. Je vois même beaucoup d'intellectuels qui disent « dites-nous les pays où la Banque mondiale a déjà développé ». Mais la Banque mondiale ne peut pas venir là-bas pour jouer la place d'un gouvernement légitime.
Merci. Voilà. Donc, on a compris que c'est le gouvernement, comme vous l'avez dit, qui devrait définir sa politique économique. Tatine Sungani, vous êtes de cet avis?
Accompagné par ces institutions, point à la ligne.
Tatine Sungani, vous partagez ce point de vue?
Je partage totalement l'avis de M. Lebs Kamoya, parce que ce n'est pas au FMI, à la Banque mondiale, qui revient de développer un pays. Je vous informe que pour ce qui est de la première, la deuxième et la troisième revue du programme économique du gouvernement, les institutions de Bretton Woods ont décaissé plus de 700 millions de dollars. Maintenant, il appartient au gouvernement de les affecter positivement pour que ces fonds soient porteurs de ce que je peux appeler une réaction sociale vis-à-vis des Congolais. Alors, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, c'est la faute du FMI si le gouvernement gère mal ses fonds. Quand est-ce que ces institutions de Bretton Woods interviennent? Généralement, elles interviennent quand il y a un problème. Pour le cas de FMI, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre structurel dans la façon de gérer les pays. Et quand ces institutions viennent, ils viennent justement pour rétablir les agrégats macroéconomiques que nous connaissons, c'est-à-dire relancer la croissance économique, stabiliser l'inflation et donc les prix intérieurs, stabiliser le taux de change, faire repartir l'emploi. Mais tout cela, en fait, c'est au gouvernement qu'il appartient d'initier et de mettre sur pied des politiques économiques cohérentes qui puissent permettre d'abord de créer la croissance et donc de créer l'emploi et in fine de créer la richesse nationale. Si le gouvernement fait bien son travail, monsieur le journaliste, nous n'aurions pas eu besoin de faire appel aux institutions de Bretton Woods. C'est pour ça que je dis ceci. Il est clair que l'on a souvent tendance à occulter ce que ces institutions font de positif et dans le même temps, on occulte aussi la responsabilité de l'État dans la situation catastrophique sur le plan financier et économique que vit notre pays. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je n'ai pas un problème particulier avec le FMI Banque Mondiale. Non, c'est pas. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est dans la capacité du gouvernement à créer des conditions d'amélioration du social du Congolais au jour le jour. C'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas de dire ici, ils ont réussi, ils ont échoué ici à Kin ou ailleurs dans d'autres pays.
En revenant au secteur minier, toujours dans l'interview que le sénateur Henri Thomas Lokondo a accordé à Radio Okapi, qui est passé ce matin sur nos antennes, il disait que le Sénat avait produit un rapport sur le secteur minier en RDC. Ce devrait être le rapport Mutamba Dibwe, si je ne me trompe pas. Et dans ce rapport, le Sénat avait fait beaucoup de recommandations au gouvernement pour améliorer la transparence, la bonne gouvernance, mais apparemment, il n'a pas été suivi et que le FMI serait revenu sur pratiquement les mêmes recommandations.
Absolument, monsieur Alain Rung, j'ai lu le rapport Mutamba Dibwe, qui est un rapport extrêmement intéressant et positif. Je me demande ce que le gouvernement fait des recommandations qui lui sont faites par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai lu ce rapport qui s'est appesanti sur le secteur, mais je ne suis même pas sûr que le FMI et la Banque mondiale sont en mesure de produire un rapport d'une telle qualité. Ce qui me fait dire qu'en fait, le sénateur Lokondo n'a fait que rebondir, effectivement, sur ce rapport qui a fait grand bruit à l'époque, mais qui malheureusement n'a pas permis au gouvernement d'initier des actions correctives dans le secteur des mines, et je vous assure que cela est fort dommage pour notre pays.
Al Kitengeya, le chef des travaux Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka, l'Équateur, qui dit « Pourquoi nos ressources sont-elles vendues à vil prix alors que nous avons besoin de beaucoup de ressources financières pour financer notre développement, notamment les 5 chantiers? Si le FMI et la Banque mondiale arrêtent aujourd'hui le programme avec la RDC, à quoi alors ont servi les sacrifices consentis depuis que nous sommes en programme avec ces institutions? Pourquoi dans le secteur minier, manque-t-il de la bonne gouvernance et la transparence? Réaction.
C'est très simple. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose qui va être assez révolutionnaire. C'est de dire qu'en fait, le gré à gré et la mafia dorment dans le même lit. Vous savez, dans le monde entier...
En concubinage.
Totalement. Dans le monde entier, on vous dit, les gens lèvent les capitaux en bourse. L'une des choses les plus importantes en bourse, c'est la transparence, c'est la concurrence, c'est le mieux offrant. Et nous, malheureusement, nous travaillons toujours en dessous de la table. Très malheureusement, c'est comme ça dans ce pays. C'est comme ça que les gens agissent et tout le monde a tendance à trouver ça normal. Eh bien, chers amis, ce n'est pas normal. C'est une des premières conditions qu'il faut mettre sur la table et non en dessous de la table. Ce pays doit exiger des dirigeants la comptabilité. Nous devons savoir rendre compte, non pas aux ONG internationales, mais rendre compte à la population. Mais la population doit savoir demander cela. C'est capital. Il est important que les gens s'intéressent au pays, à son mode de fonctionnement. Sinon, à un moment donné, nous allons simplement nous réveiller. Nous nous réveillons simplement quand la Banque mondiale ou Transparency International ou n'importe quelle autre ONG internationale revient sur la liste. Et moi, je dis encore une fois, il est important que les intellectuels Congolais ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent de parler en code quand ils parlent aux populations. Il faut parler de manière claire pour que les gens comprennent. Notre situation est dangereuse. Le pays est en danger. Et je vous dis encore une fois, si le FMI et la Banque mondiale ont autant d'emprise sur nos gouvernants, c'est simplement parce que nous n'avons pas de plan de gestion. Et c'est pour ça qu'ils essaient de nous en imposer un ou plusieurs en fonction de ce qui change, en fonction du vent. Et encore une fois, il est important que le pays se dote d'un plan stratégique multiforme de gestion afin d'être en mesure de mettre en place des leviers de commandes qui puissent nous permettre d'évoluer rapidement.
Olkitenge, je le disais dans le sommaire de l'émission, la conclusion positive de ce programme permettrait à la RDC de bénéficier des appuis budgétaires de la part de ces deux institutions internationales. Le sénateur Lokondo est revenu là-dessus. Nous savons que notre gouvernement dépend en grande partie également de ces appuis budgétaires, qu'arriverait-il?
C'est déjà une honte. Souvenez-vous que l'un des premiers pactes que le ministre des Finances a pris quand il est arrivé, c'était le doublement des recettes. Ça n'a pas eu lieu. La question qu'on se poserait, c'est pourquoi ça n'a pas eu lieu? Mafia, encore une fois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que si notre pays peut multiplier son budget, ce n'est pas par deux qu'il doit le faire. C'est par 10, par 15. Et les moyens sont disponibles. Il y a plusieurs canaux de travail. Et il faut savoir que, à vouloir y aller petit à petit, nous fragilisons le tissu social. Et quand le tissu social est fragilisé, il y a des risques de rébellion et ça compromet toute chance de progrès économique. Il est important qu'on parle globalement. On ne peut pas continuer à utiliser les ressources épuisables comme les secteurs miniers sans en avoir un plan de substitution. Il est important que l'utilisation et notre stratégie minière, et c'est pour ça que j'en appelle à une révision du code minier, fassent partie d'une vision et d'une stratégie de révolution économique. Nous devons passer de l'économie primaire à l'économie secondaire et tertiaire.
Lems Kamwanya, un mot en guise de conclusion. L'émission va prendre fin dans moins de deux minutes.
Ce que moi je peux dire, c'est qu'on ne peut pas tout négativer. C'est vrai, comme le ministre des Finances l'a dit, une revue, c'est une évaluation. Quand on constate qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on demande des comptes, on s'explique et on continue. Le plus important, c'est qu'on pousse, qu'on tente à améliorer la gouvernance. Dans notre pays, il y a la loi sur les désengagements de l'État qui dit que toute personne d'actif doit faire l'objet d'un appel d'offres et que le gré à gré doit se faire de manière vraiment exceptionnelle. Si on arrive à respecter ces conditions, je crois qu'on aura moins de problèmes avec nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour le développement de notre pays.
Merci. Tatin Songani, conclusion.
La bonne gouvernance est un problème d'hommes. Ceux qui nous dirigent ne savent pas ou ne sont peut-être pas en mesure de faire preuve de bonne gouvernance. Il faut donc des hommes nouveaux qui puissent nous apporter la bonne gouvernance.
Al-Kitenge.
Les entreprises minières aujourd'hui rémunèrent les capitaux avant les matières premières. C'est pour ça que les entreprises minières présentent des investissements faramineux sans impact local. Mon point de vue, c'est qu'il faudra revoir le code minier. Il faut le retoucher afin qu'il réponde aux ambitions de ce pays.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci également à vous de votre attention et merci surtout aux auditeurs qui nous suivent à Kasongo, dans la province du Maniema, sur Radio Sauti ya Mkaji, partenaire de Radio Okapi, émettant sur 98.0 MHz et partout au monde, vous nous suivez sur radiookapi.net. Au revoir.